Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, ici Armand Dubois, heureux de vous retrouver à ce rendez-vous hebdomadaire de la série Destination Bonheur. Notre invité cette semaine a probablement eu l'occasion de méditer au gré du temps sur le sens profond de la vie. Sens, pour paraphraser Claudel, comme on dit, le sens d'un cours d'eau. Mais sens aussi non seulement de la voie à suivre, mais de la joie que peut procurer l'effort de rechercher constamment à emprunter un chemin de vérité et d'accompagner ceux et celles qui cherchent une direction à prendre. Mais les chemins de vérité sont souvent sinueux, rocailleux, en constante construction et parsemés de carrefours aux voies multiples. Lui, il a fait le choix d'emprunter la voie de Jésus-Christ en optant pour la prêtrise, une voie peut-être moins facile aujourd'hui qu'autrefois. Il assume depuis déjà quelques années la responsabilité de la pastorale sacramentelle à la paroisse Trinité-sur-Richelieu en Montérégie. Il a gentiment accepté de passer cette heure avec nous et de partager quelques réflexions en parole et en musique. Nous recevons aujourd'hui l'abbé Jean Girard. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, un mot sur cette paroisse.
Comme vous venez de le dire, la rivière coule. Cette paroisse est située tout près du Richelieu, en face de la montagne Saint-Hilaire, près de Lavin, une paroisse qui est toute jeune, qui a quelques années d'existence, qui est formée de trois anciennes paroisses, Saint-Mathieu-de-Belleuil, Sainte-Maria-Goretti et Sacré-Cœur de McMasterville. Maintenant, ça s'appelle Trinité-sur-Richelieu. Une paroisse où il y a beaucoup de personnes, des métiers variés, paroisses multiples.
Paroisse vivante.
Paroisse dynamique où il y a beaucoup de vie, beaucoup de personnes qui s'impliquent. À la fête des bénévoles, on a au-dessus de 350 bénévoles qui viennent célébrer, qui font vivre la paroisse, oui.
Et, on le disait, vous avez choisi la voie de la prêtrise. Si on regardait, si on remontait, abbé Girard, un peu dans le temps, c'est un choix qui vous est venu très tôt dans la vie?
Moi, j'ai commencé à penser à la prêtrise, j'avais 4 ans. C'est suite à une expérience...
C'est assez tôt, en effet.
C'est assez tôt. C'est assez tôt pour décider son métier. J'ai jamais changé de... jamais eu d'autres pensées. C'était toujours cette idée-là que j'avais dans la tête. Donc, c'est suite à une expérience un peu spéciale. Aussi, peut-être, due au fait que je demeurais sur la ferme chez nous. C'était la ferme que mon arrière-grand-père avait bâtie. Et mes grands-tantes restaient pas loin. Et j'étais entouré de personnes âgées qui étaient très proches du religieux aussi.
Parce que vous venez de le dire, vous venez d'un milieu agricole. Donc, un milieu probablement tissé, serré, grande famille.
Nous étions 5 enfants chez nous, j'étais le plus vieux, mais chez ma mère, ils sont 13 enfants, mon père, ils étaient 6. Donc, il y a des familles assez proches qui vivaient dans le milieu aussi.
Et ça contribue, j'imagine, à forger peut-être un choix comme celui que vous avez emprunté?
Je ne sais pas si ça le forge, mais ou c'est par opposition, parce que je suis le plus vieux de famille chez nous. Sur la ferme, mon père avait une vision que moi, j'allais rester, parce que c'est la ferme de mon arrière-grand-père. Et j'ai choisi un autre chemin. Donc, c'était pas le chemin qu'on avait pensé pour moi, qu'on avait rêvé pour moi. Donc, c'était un chemin que je me suis inventé, que je me suis trouvé, que je me suis cherché, que j'ai reçu.
Mais il y avait, sans aucun doute, un héritage. On sait à quel point, et si on remonte un peu dans le temps, les valeurs, particulièrement dans le milieu dans lequel vous avez grandi, étaient très importantes. La transmission, vous le dites, au plan, par exemple, peut-être de l'héritage de la terre, la transmission des valeurs, c'était important.
Oui, les valeurs familiales, les valeurs de partage, de solidarité, on travaillait beaucoup. On allait faire les foins chez les voisins venaient nous aider, le temps des récoltes, on allait aussi chez les voisins. Je me souviens de la table chez nous remplie parce que les voisins venaient faire les récoltes de l'avoine. C'était beaucoup de monde et la semaine d'après, on était chez les autres, on se rendait des services, c'était C'est très, très, très entraide, oui.
Pour amorcer, vous avez choisi une chanson qui nous met peut-être dans ce contexte, une chanson d'Alfred Desrochers, Le Réveil.
Le Réveil de la nature.
J'ai sorti un extrait d'un poème d'Alfred Desrochers, qui, comme on le sait, a quand même été un poète important, particulièrement en Estrie. Et il me semblait que ça vous ressemblait, cet extrait du Liminaire. Par nos ans sans vigueur, je suis comme le être dont le rêve atterrit sans qu'il soit dépouillé. Et c'est de désir mort que je suis enfeuillé quand je rêve d'aller comme allait mon ancêtre. Alors, on écoute cette pièce que vous avez choisie.
Merci.
Avec nous aujourd'hui, au gré du temps, l'abbé Jean Girard de la paroisse Trinité sur Richelieu, donc une pièce qui était interprétée par Jules Jacob sur un texte d'Alfred Desrochers. On le qualifie de poète du terroir. Abbé Girard, quand on repense à tout cela, vous avez fait donc le choix de la prêtrise. Vous avez été ordonné en quelle année?
En 1983.
Et dès votre ordination, vous avez occupé assez rapidement des responsabilités importantes, mais qui vous ont amené assez rapidement aussi en mission, si j'ose dire.
Oui. En 86, je quittais le Québec pour le Brésil. Donc, après 3 ans de travail à la paroisse, je m'occupais beaucoup de la jeunesse, où je m'occupais d'écoles primaires. Je suis parti pour le Brésil pour 7 ans. Dans le Maranhão, dans le nord-est du Brésil, un travail de brousse, un travail intéressant. Je suis tombé en amour avec le Brésil, je suis tombé en amour avec ce milieu-là. J'ai découvert une autre façon de faire église, une autre façon d'être chrétien.
C'est-à-dire?
Faire église, Dans la paroisse où on était trois prêtres, une paroisse de 72 kilomètres par 78. Il y avait au-dessus d'une centaine de petites chapelles, de petites communautés qu'on visitait. Il y a des paroisses qu'on visitait tous les 3 mois, des églises qu'on visitait tous les 3 mois. Il y a une fois, je suis allé à un endroit, j'ai dit la messe. Ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de messe dans cet endroit-là. Donc, il y avait une autre façon de voir les communautés aussi se prendre en main. Parce que dans chaque communauté, il y avait des catéchètes, il y avait des responsables qui animaient la vie communautaire, qui animaient la vie chrétienne, qui aidaient les gens à se préparer à la première communion ou au baptême et qui faisaient en sorte qu'ils nous invitaient. Ils nous envoyaient un message ou nous invitaient à aller faire un tour dans la paroisse pour aller célébrer l'Eucharistie pour les premières communions, pour les baptêmes. Mais il y avait une vie sans prêtre, une vie chrétienne qui se vivait sans qu'il y ait de prêtre nécessairement présent toujours. Et c'est une autre façon pour moi, qu'au Québec, on avait des prêtres à tous les coins de rue, de voir une église vivante ou qui était animée par des laïcs.
Et à l'époque où la théologie de la libération était quand même très vivante également, au plan des autorités, vous ne deviez pas être perçu de façon très, très positive.
C'était plus difficile pour un prêtre catholique à l'époque d'entrer au Brésil. Il y avait plus de restrictions parce qu'on s'impliquait beaucoup au niveau de l'aide, de l'organisation. La théologie de la libération, ça vient un petit peu du Dieu qui parle à Moïse sur le mont Sinaï, qui lui dit: J'ai entendu la misère de mon peuple, je te choisis, va les délivrer. Donc la foi n'est pas seulement quelque chose qui aide au spirituel, mais qui libère tout l'être au complet. Suite à cette invitation de Dieu à Moïse, là, que la théologie de la libération est née. Et c'est ce désir de faire en sorte que tout l'être humain soit sauvé, pas juste son âme, mais que tout l'être participe de la vie du Christ.
Est-ce qu'à ce moment-là, Jean Girard prend vraiment conscience de l'utilité de son rôle de prêtre?
Oui, au Brésil, c'était d'une évidence flagrante. On travaillait au niveau de la santé, on travaillait au niveau des syndicats, on travaillait au niveau de l'éducation de la foi, on travaillait au niveau de la formation biblique. Il y avait une tâche insurmontable à vivre, c'était intéressant. On arrêtait. Non, il y avait l'importance d'être prêtre au Brésil, c'est très différent. C'est peut-être ce qui fait que les missionnaires sont tellement attachés à leur mission, et quand ils reviennent ici, on a tellement de difficultés. On se sent inutile ici en revenant. Alors que là-bas, on était tellement utile, on servait tellement à toutes sortes de réalités, on aidait vraiment. Et ici, on dirait que, bon, les gens pensent qu'il faut nous occuper ou je sais pas quoi. C'est plus difficile ici.
La prochaine pièce, c'est une pièce qui a vraiment cette connotation bien particulière de ce passage au Brésil.
C'est une des premières pièces que j'ai entendues. C'était chantée dans les communautés. C'est la vie de Jésus. La vie de Jésus qui est chantée par un prêtre brésilien, le Padre Zezinho, qui a une façon de présenter l'Évangile, de présenter le Christ, intéressante. Et les communautés reprenaient ces chansons-là.
Un certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar, enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto
Avec nous aujourd'hui, l'abbé Jean Girard de la paroisse Trinité sur Richelieu en Montérégie. Nous venons d'évoquer votre passage au Brésil, de ce rôle utile du prêtre lorsqu'on est en mission, de ce rôle peut-être un peu plus difficile lorsqu'on revient chez soi. Si on abordait la question de la foi, Albert Camus disait « Les doutes, c'est ce que nous avons de plus intime ». Est-ce que on est habité par le doute, même lorsqu'on est prêtre?
On est habité par le doute de son choix. Moi, j'ai été longtemps habité du doute. Dieu s'est-il trompé en m'appelant? J'ai jamais été habité du doute de Dieu. J'ai souvent été habité du doute sur moi-même, du doute sur ma capacité de répondre à l'appel, du doute sur l'être humain, du doute sur la vie. Mais le doute sur Dieu, moi, ça ne m'a jamais habité. Le doute profond qui m'habite, c'est plus « suis-je le bon candidat pour répondre à l'appel que j'ai reçu? » Y a-t-il eu une erreur de communication quelque part? J'ai longtemps pensé ça.
Mais vous disiez que vous avez reçu l'appel dès votre plus jeune âge, à 4 ans, à travers une expérience particulière, et qu'à partir de ce moment-là, vous avez su que la réponse, elle vous était donnée.
Moi, je pourrais pas dire. J'ai vécu une expérience intérieure qui m'a fasciné, qui m'a bouleversé. J'ai des difficultés à appeler ça un appel. Moi, j'appellerais ça plus une réponse. Suite à une expérience, j'ai donné ma réponse. La réponse que je croyais la meilleure pour vivre en continuité avec cette expérience-là que j'avais vécue. Parce qu'un appel, c'est trop difficile à partager avec les autres. Un appel, ça fait trop privilégié. Mais il y a une réponse que j'ai à donner à une rencontre. C'est comme si j'avais rencontré un jour quelqu'un et j'ai à lui dire une réponse de ma vie. Et je cherche mon chemin de bonheur à travers ça. Je pense que cette expérience-là m'a donné le goût de trouver mon chemin de bonheur. Et le fait de vouloir devenir prêtre, c'est venu d'une conviction qu'en étant prêtre, je vivrais ce chemin de bonheur-là.
Et cette conviction vous habite encore?
Cette conviction m'habite encore. Je suis prêt à donner ce que j'ai à donner. Maintenant, si on veut recevoir ce que j'ai à donner, ça m'habite encore et ça me porte encore. Ça fait 46 ans, 47 ans que j'ai vécu cette expérience-là, puis elle est encore marquante en moi.
Vous faites probablement cette nuance entre foi et religion. Vous savez qu'au Québec, parce que vous avez évoqué le Brésil, cette soif qu'avaient probablement les gens, vous disiez que parfois vous alliez dans un village où on n'avait pas célébré la messe depuis peut-être 10 ans. Donc il y avait une attente très grande à l'égard de celui qui porte l'Eucharistie. Aujourd'hui, dans un milieu comme celui du Québec où, bon, on le sait, la pratique dominicale, je dis bien dominicale parce que la pratique, c'est bien d'autres choses que la messe du dimanche, elle est quand même moins présente. Est-ce que ça rend pas votre tâche plus difficile?
Ça la rend plus belle, parce que plus le temps avance, moins c'est la religion qui domine et plus c'est la foi. Ce que je découvre en côtoyant les gens qui restent, qui demeurent à l'Église, qui viennent, qui fréquentent encore. Ils sont en train de délaisser le religieux par obligation pour entrer dans le domaine d'une réponse à quelque chose d'intérieur. Il y a de plus en plus de personnes qui ont un désir de cheminement, alors qu'avant, on venait pour obéir à un rituel, on venait pour obéir à un commandement. De plus en plus, il y a des gens libres qui disent « Moi, je veux vivre quelque chose qui nourrit mon intériorité, plus qu'il faut que j'obéisse aux préceptes du dimanche, sinon il y a quelque chose qui va me tomber sur la tête. » Ou une peur que si j'ai pas accompli ma messe ou si j'ai pas été à ma messe, je suis en état de péché. Il y a quelque chose aujourd'hui, on entre tranquillement, doucement, on entre dans le domaine de la foi, je trouve.
Mais est-ce que la rupture n'a pas été trop brusque au Québec? Je fais référence, par exemple, à tout ce dilemme entre la foi et l'histoire, qui a été d'ailleurs un thème précieux développé par le regretté Fernand Dumont dans un ouvrage, entre autres, « L'institution de la théologie » qui avait été publié en 1987. Fernand Dumont affirmait croire à l'avenir du christianisme, à la capacité qu'il a toujours eue de se régénérer. Cependant, il écrivait... Il faut retrouver le sens de la tradition qui le porte, se remettre en mémoire l'ampleur de l'héritage qui a été à la source de tous ces projets au cours des âges. Mais la foi chrétienne entretient un paradoxe avec l'histoire qui est de double rapport. D'un côté, elle a tendance à s'en éloigner et de l'autre, elle lui apporte un éclairage que Dumont appelait fort justement la conscience historique de la foi. Est-ce que vous ne sentez pas que cette rupture a été peut-être un peu brutale ici au Québec?
Ça a été rapide. Ça a été rapide parce que ça a été retardé. Moi, c'est ma lecture à moi, là. On aurait dû commencer bien avant le virage. Mais il y a eu des fermetures qui ont fait en sorte que ça a été retardé. L'élastique a étiré. Puis quand c'était le moment, c'est comme s'il avait éclaté. Et ça avait été, là, ça a été trop rapide. Les gens n'ont pas compris, n'ont pas saisi. On peut être en mesure de voir les choses venir. Et quand on n'est pas prêt, on est brisé, on est blessé aussi. J'entends souvent des gens blessés par toute cette mouvance-là où on a l'impression d'avoir été trompé. J'entends souvent des gens qui me disent « J'ai l'impression que l'Église nous a trompés, nous a menti, nous a... » Et ça, c'est difficile à
partir. Et comment vous recevez cela?
Malheureusement, en écoutant, je suis obligé de l'accueillir.
Oui.
Je suis obligé de l'accueillir. Mais c'est une vérité où on ne s'est pas préparé à entrer dans le monde dans lequel on allait vivre. C'est comme si on n'avait pas vu venir les choses. Et la religion qu'on avait nous maintenait dans le passé, alors que la foi nous appelle toujours par en avant. Alors que le Christ est en avant qui nous appelle, la religion a souvent la tentation de nous attirer dans le passé. Et ça, c'est le dilemme de l'être humain qui a de la difficulté à lâcher prise de ses certitudes pour aller vers un peu d'inconnu. Et c'est toujours difficile d'aller vers l'inconnu.
Abbé Gérard, vous êtes responsable de pastorale sacramentelle. On sait que les sacrements, on y était préparé autrefois à travers l'école. Maintenant, ce n'est plus le cas. Comment est-ce qu'on peut aller chercher les jeunes? Comment renouveler le message tout en gardant l'essentiel du message et de le rendre encore vivant pour la jeunesse?
Si j'avais cette réponse-là, je ne serais peut-être pas ici. Mais ce qu'on essaie, en tout cas dans la paroisse chez nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en route une démarche plus axée sur le cheminement, l'accompagnement, le marcher avec, plus que des sacrements qui arrivent à des temps définis. Ce qu'on voudrait en arriver, c'est que la foi devienne un cheminement, une route qui dure, et non pas des étapes importantes à franchir. On a fait de la foi trop souvent des étapes à franchir. Il y avait la première communion, il y avait le sacrement du pardon, il y avait la confirmation. Alors que c'est d'entrer en lien avec le Christ. C'est de devenir chrétien, l'important.
Il faut que ça vienne de l'intérieur.
Il faut que ça vienne de l'intérieur et non pas... Parce que moi, j'ai souvent comparé ça à prêt, pas prêt, j'y vais. Le troupeau d'autrefois qu'il fallait qu'il soit vacciné. Tu étais en troisième année, c'était le temps de la première communion. Que tu y crois, que tu y crois pas, c'était l'âge, là. C'était l'âge du vaccin, c'était l'âge de la communion, c'était l'âge de la confirmation, c'était l'âge... Peu importe le cheminement que tu avais vécu, c'était le temps, l'évêque passait. C'était le temps, le cours y passait. Mm-hmm. Alors qu'aujourd'hui, on essaie de respecter où tu es rendu. Où tu es rendu dans ta marche avec Dieu.
Alors, on ne sait jamais.
On ne sait jamais.
Jean Gabin l'a bien exprimé dans une chanson.
Très bien. J'aime beaucoup cette réflexion-là de Jean Gabin. Je ne sais pas.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour. Quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse. Mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
Avec nous aujourd'hui, l'abbé Jean Girard, au gré du temps, qui est prêtre à la paroisse Trinité-sur-Richelieu, en Montérégie. Abbé Girard, Jean Gabin disait qu'on ne sait jamais, mais il faut presque toute une vie pour apprendre qu'on ne sait pas, parce qu'on pense souvent tout savoir. Le dilemme entre croyant et incroyant, je reviens sur la notion du doute qui nous habite parfois à différents niveaux dans notre vie. Le croyant comme l'incroyant, chacun à sa manière, connaîtra le doute et la foi s'ils ne cherchent pas à se faire illusion à eux-mêmes et à se dissimuler la vérité de leur être. Cette phrase, elle est extraite de Foi chrétienne hier et aujourd'hui, dans un livre qui a été publié en 1968 par un auteur qui avait pour nom Joseph Ratzinger, aujourd'hui Benoît XVI. Ce que l'auteur, en fait, tentait peut-être de nous dire, c'est que le croyant doute, mais l'incroyant aussi peut douter en se disant « et si Dieu existait ?» Dans nos vies quotidiennes, est-ce qu'il y a moyen parfois d'atténuer le doute à l'égard de cette recherche d'un au-delà, d'un être supérieur aimant ou dans votre expérience personnelle? C'est une question qui n'est pas nécessairement facile.
La seule façon d'atténuer le doute, c'est d'avoir la certitude d'une rencontre. Je ne doute pas de votre existence, je vous vois. Je vous rencontre, vous êtes là. Quand on a eu la certitude un jour d'avoir touché dans son cœur, dans son intériorité, la présence de Dieu, le doute est impossible. Je ne peux pas douter de votre présence, là, vous êtes là, là. Quand on l'a touché, on ne peut plus douter. Ce doute-là, il est, en tout cas, à mon sens, à moi, ce doute-là il est impossible.
Est-ce qu'il y a des façons d'arriver à toucher à cette présence?
Malheureusement, ça, je n'ai pas de réponse. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut mettre tout en œuvre pour permettre cette expérience-là. Mais les chemins de Dieu, les chemins de l'Esprit sont tellement surprenants. Dieu rencontrait Claudel derrière une colonne d'église. Combien d'expériences de personnes qui ont fait cette rencontre-là dans des lieux, dans des moments où ils s'y attendaient pas et qu'ils n'avaient pas cherché ça, ils ne voulaient pas ça. C'est comme si Dieu venait toucher l'épaule de quelqu'un pour lui dire « je suis là ». Et il repartait mais pour donner cette certitude d'une présence. Mais je pense que ça ne nous appartient pas. Moi, j'ai la conviction que ça ne nous appartient pas. C'est quelque chose qui vient... Pour moi, c'est bien difficile à exprimer.
Vous avez évoqué le sentiment d'utilité que vous aviez en début de votre ministère de prêtre. Est-ce que vous avez encore le sentiment d'être utile aujourd'hui dans un monde où il y a peut-être une plus grande désaffection à l'égard du religieux?
Il n'y a pas un jour où je n'ai pas l'impression d'être utile. J'ai tellement de feedback de personnes qui viennent me voir, qui m'envoient des emails, qui viennent me dire ce que tu as dit, ce qui m'a aidé. La démarche que tu as fait m'a libéré. J'avais des craintes, j'avais des inquiétudes, j'avais des angoisses. Il y a tellement de personnes qui ont besoin, et aussi surprenant que ça puisse paraître à l'ère des communications, il y a tellement de personnes qui sont seules. Il y a tellement de personnes qui sont isolées. Il y a tellement de personnes qui ont besoin de communiquer, de communier. Le rôle du prêtre aujourd'hui, c'est un rôle de rassembleur, de personne qui favorise la communion. Et ça, c'est un besoin fondamental auquel très peu d'organismes, semble-t-il, répondent.
Et l'Église peut encore répondre à cela, cette capacité de toucher avec les yeux du cœur?
Oui, je pense que si l'Église s'ouvre vraiment au-delà des apparences, elle peut toucher aux yeux du cœur puis faire d'accéder à l'invisible.
Et cette chanson de Jerry Boulet l'exprime assez bien, je crois.
Super bien.
Elle vous rappelle peut-être même Saint-Exupéry. Elle vous rappelle certains passages de l'Ancien Testament.
Cette chanson me rappelle le prophète Samuel qui va chercher un roi pour Israël pour remplacer Saül. Et Dieu dit à Samuel, fais attention, tu regardes les apparences, moi je regarde le cœur. Et Saint-Exupéry qui met dans la bouche du renard, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et Jerry qui reprend cette image-là, dans cette chanson, pour moi, qui est merveilleuse, parce qu'elle inspire ma présentation de bien des sacrements. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur.
Encore une nuit blanche,
assis sur les planches à tenter la romance au bal des mal-aimés. J'ai vu la solitude danser avec un vieux rêve oublié, et puis sous le coup de minuit, ensemble ils sont partis. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur.
Ils sont partis, la fête a continué. J'ai vu le soleil briller au fond des cœurs blessés. Il y a de l'espoir caché dans les yeux des mal-aimés. J'ai vu le soleil briller et j'ai laissé mon cœur parler.
Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Aujourd'hui je vois. Sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur.
Vous écoutez Destination Bonheur. Avec nous aujourd'hui, l'abbé Jean Girard de la paroisse Trinité sur Richelieu en Montérégie. Abbé Girard, je vous donne une citation comme cela. Dieu est derrière tout, mais tout cache Dieu. Elle est de Victor Hugo. On a l'impression aujourd'hui qu'on se cache aussi derrière certaines apparences. Les rituels sont moins présents. Nous entrons en carême. Dieu sait que le carême était très important autrefois. Est-ce que ça a encore une signification profonde?
Ça a encore une très grande signification, surtout dans un monde où on a tellement besoin, où on court tellement, où on n'a pas le temps de rien. On est obligé de prendre des rendez-vous puis des agendas pour tout, même pour ses loisirs, même pour ses vacances, même pour ses rencontres d'amis. Le carême, c'est comme une respiration. C'est comme un temps d'arrêt. C'est comme quand on s'inscrit au gym pour se mettre en forme parce que le printemps s'en vient pour avoir sorti les costumes de bain puis on veut rentrer dedans. Le carême, c'est un petit peu comme si on voulait rentrer dans son intériorité puis voir où est-ce qu'on en est. C'est un camp d'entraînement. C'est un temps où on, on se recentre sur l'essentiel, puis on se dit, où est-ce que je m'en vais avec ma vie?
Et c'est intéressant ce que vous dites. Vous parlez de camp d'entraînement alors qu'on a l'image de la pénitence, du sacrifice. C'est tout le contraire. Dans un camp d'entraînement, on travaille fort, on donne, on partage.
Mais je vous dirais que pour moi, là, un camp d'entraînement, c'est de la pénitence,
du sacrifice.
Parce qu'il faut surveiller son alimentation, il faut faire de l'exercice, faut faire des efforts.
Aussi.
Donc, ça, pour avancer, pour cheminer, pour progresser, je pense qu'il n'y a rien sans effort. Donc, le carême, c'est un petit peu des efforts qu'on fait pour se remettre en forme intérieurement, pour prendre un temps d'arrêt, pour se ressaisir, puis dire, dans quelle direction va ma vie? Et on n'a pas beaucoup d'occasions dans le monde d'aujourd'hui pour se poser cette question-là, à part des fois où on peut être mis à la retraite ou où on est mis au chômage. On n'a pas beaucoup l'occasion de prendre le temps de s'arrêter puis dire, où est-ce que je vais avec ma vie? Est-ce que je vais vraiment dans le sens du meilleur? Parce que saint Paul nous disait, vous cherchez ce qu'il y a de meilleur. Juste avant l'hymne de l'amour, au chapitre 13 de Corinthiens, vous cherchez dans la vie ce qu'il y a de meilleur. Mais si tu verrais ça, où est-ce que je m'en vais avec le meilleur dans ma vie? Qu'est-ce que je choisis? C'est quoi mes démarches quotidiennes? À quoi est-ce que je dois renoncer? Dans quoi est-ce que je dois m'embarquer pour améliorer mon histoire? Pour faire de ma vie quelque chose de plus goûteux? De meilleur. Et tout ça, quand je suis chrétien, à la suite de quelqu'un qui n'a pas hésité à aller plus loin, à aller au bout de son chemin. Jésus qui, après son baptême, a été amené au désert. Jésus qui, après son baptême, a été mis à l'épreuve de la vie. Et qui a résisté à tout ce qui pouvait être proposé. Dans notre monde, on en a des propositions, toutes sortes de propositions.
Mais comment faire carême de façon concrète dans une vie qui est tourbillonnante, vous le savez, vous avez évoqué les agendas qui sont parfois fort bien remplis. Est-ce qu'on peut encore faire carême?
Je ne sais pas si on peut encore, mais pour moi, c'est important. C'est très important d'arriver à se donner du temps, d'arriver à avoir la discipline, de se donner un peu de temps, de se garder du temps et choisir une période où tout le monde se met en même temps à se donner du temps, ça prend une espèce de connotation de force. C'est comme si on décidait de s'entraider à se donner du temps. Mais ça, on n'a pas encore compris. Le ramadan permet aux musulmans de se dire, bon, on est en ramadan, donc on va faire attention, on va se faire attention. Les chrétiens n'ont pas encore compris que bon, on va faire attention les uns aux autres pour pas, durant cette période-là, on va se respecter dans le temps qu'on se donne. Ça, c'est quelque chose qu'on a à élaborer, notre sens communautaire.
Dans votre paroisse, justement, il y a un thème cette année qui n'a rien à voir avec le thème, on parlait du rétroviseur, regardez dans l'histoire précédente, à l'égard des cendres, tu redeviendras poussière. C'est un thème qui est beaucoup plus ouvert sur la vie.
Accueillir Dieu transforme la vie. Comment ça change ma vie, ça, le fait d'accueillir Dieu? Ou comment ma vie qui est transformée, parce que les deux sont vrais, ma vie qui est transformée par la maladie, par la souffrance, me permet d'accueillir Dieu aussi.
Aller plus loin.
Aller plus loin, toujours plus loin, même si on se croit arrivé.
Comme le dirait John Littleton.
Exact.
Va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé. C'est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité vous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur. car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin, même si tu te crois arrivé. Seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur va regarder plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin.
Retour avec l'abbé Jean Girard. Abbé Girard, nous sommes en carême, nous l'avons évoqué. John Littleton nous disait d'aller plus loin. Dans votre vie de prêtre, vous êtes un homme heureux?
Je crois que oui, je suis un homme heureux. Heureux, bon, parfaitement, c'est un idéal à atteindre, mais heureux dans la mesure où je peux l'être, oui. Je suis un homme heureux, j'aime ce que je vis, j'aime ce que je fais, oui.
Le partage du bonheur, parce que c'est un peu, permettez-moi l'expression, c'est un peu votre job de pouvoir permettre l'émergence de situations heureuses entre les êtres humains. Est-ce que ça vous procure aussi du bonheur?
Ça me fait vivre, ça me fait vivre. Ce que je peux provoquer, ce que je peux aider, ce que je peux mettre en œuvre pour provoquer le bonheur, parce que c'est l'appel... On l'a vu dans les Béatitudes, Dieu rêve de bonheur pour nous. Et j'ai appris récemment que la traduction hébraïque du mot original, c'est « en marche ». On l'a traduit par « heureux ». Et « heureux », on pourrait le traduire par « en marche », « mise en route ». Donc le bonheur, c'est être en route. C'est trouver son chemin. C'est le bonheur, c'est le désir. Je pense que dans le désir, dans la mise en route, il y a un bonheur quand on partage ça avec les autres, quand on peut permettre aux autres, et quand on peut se permettre à soi-même aussi d'être en marche.
Et votre chemin du bonheur, ça a été peut-être de suivre la même voie que lui?
La même voie que lui. Lui qui a donné jusqu'au bout. Lui qui, bon, qui s'est réalisé.
Alors, j'ai une chanson un peu surprise que vous n'avez pas choisie, mais que j'ai choisie pour vous, que nous avons choisie pour vous, comme lui, savoir mettre le tablier. Ça vous dit quelque chose?
Oui, ça me dit quelque chose. Dresser la table. Merci.
Thank you. comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui chaque jour et servir par amour, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour.
Nous sommes déjà rendus presque au terme de cette émission. Une belle chanson de Robert Lebel. Malheureusement, nous ne vous l'entendrons pas chanter, mais je dois dire aux auditeurs que vous êtes de ceux qui pourraient tout à fait l'interpréter parce que vous avez une très jolie voix.
Merci beaucoup.
Nous pouvons l'entendre assez régulièrement lors de vos célébrations. Dites-moi, en 2008, quand vous essayez de faire un peu de prospective sur le devenir de, pas nécessairement l'institution, mais ce que deviendra peut-être l'Église au Québec ou le cheminement des gens qui vivent ici. Vous imaginez cela comment, à travers l'expérience de prêtre qui est la vôtre?
L'Église deviendra, en autant qu'elle se laissera toucher par l'Esprit, l'Église poursuivra sa route en autant où elle se laissera rajeunir par les jeunes et n'essaiera pas de faire les jeunes entrer dans son histoire ancienne.
Donc, on peut conserver un sens critique à l'égard de l'institution.
Si on n'a plus ça, l'avenir est terminé. si on perd le sens critique à l'égard de l'institution, c'est la mort de l'Église. Parce que sa vie, c'est la critique de ceux et celles, non pas le sens, les critiqueux, mais la critique de ceux et celles qui veulent son bien, qui veulent qu'elle atteigne sa mission d'évangélisation.
Mais ce que vous ne remettez, vous, jamais en cause, c'est la question de la foi. Quand vous dites la messe, pour vous, ce n'est pas qu'un rituel.
Surtout pas. C'est pas un rituel. C'est une rencontre. Une rencontre avec quelqu'un. D'abord et avant tout avec le Christ, avec Dieu. Ensuite, une rencontre de frères qui rencontrent Dieu. Donc, c'est de frères et sœurs qui rencontrent ensemble l'essentiel de leur vie. C'est une rencontre. Et pour moi, la communion, c'est pas tellement le geste. Mais dès le début de l'Eucharistie, il y a une communion qui s'effectue. Une communion dans le chant, une communion dans la prière, une communion dans l'être ensemble.
Abbé Jean Girard, je dois et nous devons vous remercier pour nous avoir fait découvrir votre destination bonheur, qui est aussi celle de plusieurs d'entre nous. Merci d'avoir été des nôtres au cours de cette émission.
Merci beaucoup. Plaisir a été pour moi.
Alors, nous recevrons la semaine prochaine un chanteur et folkloriste très connu, Monsieur André Lejeune. Cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Nathalie Jarreau. C'est Armand Dubois qui vous dit à la prochaine. Au plaisir.